Francis?
Ouais.
Dis-moi, j'avais jamais entendu cette version-là.
Ouais. C'est sur une compilation soul jazz. Non, mode jazz.
Ça, j'ai remarqué que c'était du jazz.
Ouais, mais mode.
Mode, c'est pas pareil.
C'est un jazz dansant. Mode, c'est l'abréviation de moderniste. En fait, c'est un jazz des années 60 où les gens dansaient dessus. Voilà, c'est pas sauvage. Ça a un format pop, finalement.
Voilà. Donc, ça se passait dans des caves, ça swingait, ça quoi?
Ça se passait, c'était à Londres.
Ah, c'était à Londres.
À Londres, les mods, ils sont anglais au départ. Maintenant, il y en a dans le monde entier. Ça existe toujours, hein, en fait. Il y en a peu en France, mais il y en a beaucoup plus en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Espagne. Et certainement aux États-Unis aussi. C'est des gens qui ont une démarche esthétique à la fois dans la musique, dans la manière de s'habiller, qui sont élégants et qui aiment s'amuser, danser, avoir des activités ludiques.
Et toi, tu y allais là-bas?
Non. Moi, je vis... de ça là, c'est importé.
Tu y es, mais ici quoi, d'ici.
Voilà, ouais. Ouais, moi après je voyage tout seul.
C'est pas mal de voyager tout seul pour.
Avec de la musique.
Pour faire des rencontres aussi, non?
Bon, forcément on fait des rencontres, hein, de toute façon. Parce que je suis sociable, des fois, pas toujours, social. Et après, j'ai fait plein de choses qui font que je suis un peu atypique, sans être révolutionnaire, comme passer de la musique dans le tramway. Donc forcément, quand tu passes de la musique dans le tramway tous les jeudis soirs, il y a des gens qui sont surpris qu'il y ait de la musique et qui viennent, qui ont un peu, des fois, un peu picolé, qui sortent d'un apéro, donc ça leur délie la langue et ils viennent me parler. Tiens, il y a de la musique dans le tram, là, comment ça se fait Voilà.
Ça, c'est un peu rendre à la rue, quoi.
Ouais, mais après... La musique fait partie de la rue. Hein. Surtout maintenant, il y a de plus en plus de sound systems qui sont fabriqués, comme ce petit Harman Kardon là, qu'on a écouté, où on peut marcher dans la rue en écoutant de la musique d'une autre manière qu'au casque ou avec des écouteurs.
Alors tu viens de me dire que t'as fait pas mal de trucs, quoi. Enfin, t'as voyagé un petit peu dans pas mal d'univers. À la base, toi, quand t'étais tout petit, tu voulais faire quoi?
Moi, quand j'avais 5 ans, par exemple, bon, je m'en rappelle encore assez bien. Moi, je suis fils d'agriculteur. J'habitais en Dordogne à cette époque-là. Et je pensais que j'allais être paysan. Mon arrière-grand-père me montrait des trucs, conduire les vaches, atteler à une charrette. J'apprenais comme ça à bêcher. Je bêchais le jardin à 5 ans. Je donnais à manger aux poules avec ma grand-mère. On allait donner à manger aux lapins. On allait ramasser des champignons. Je connaissais les champignons, qui comestibles ou pas. Et puis, il y avait un truc qui me plaisait beaucoup, c'était les arbres coupés, sciés. Couper des arbres, je me servais d'une hache, d'une serpe, de choses comme ça. Je pensais que j'allais être paysan ou bûcheron. Après...
À 5 ans déjà.
Ouais. Et après, vers 9-10 ans, j'ai été dans la famille de mon père où il était éleveur. Et là, j'aurais voulu être berger. Je ne sais pas pourquoi, hein, ça m'attirait. Et il y avait mon oncle qui me disait, mais c'est pas un boulot ça, tu vas passer 3 mois par an dans la montagne. À garder les brebis et les chèvres, c'est pas très excitant, mais moi, ça m'attirait.
T'as rencontré quelqu'un, tu sais pas, comment ça s'est passé cette histoire-là?
Ah ben, c'était parce que les gens de ma famille faisaient ça.
C'était plutôt dans les Pyrénées?
C'était dans les Pyrénées centrales, en Espagne, au Val d'Aran.
D'accord.
Voilà, en Catalogne. Parce que j'ai un nom catalan, Vidal, c'est catalan.
Et alors après, qu'est-ce qui se passe?
Après, c'est des rêves d'enfant. Hein. Moi, jusqu'à 12 ans, j'ai été indien peau rouge.
Ah bon?
Parce que... À cette époque-là, il n'y avait pas la télévision, on allait beaucoup au cinéma et ce qui me plaisait, c'était les films d'aventure et notamment les westerns. Et donc, ce peuple un peu opprimé qui vivait de la nature en autarcie, ça me séduisait.
Alors, est-ce que quand tu vois ces westerns, je sais pas pourquoi je te dis ça, enfin si, est-ce que quand tu regardes ces westerns, tu percutes aussi sur la musique?
Non, pas trop, finalement, parce que moi, j'aime pas beaucoup la country music et c'est souvent des chansons comme ça et ça me plaît pas trop. Non.
Alors, comment tu l'as rencontré, cette musique? Enfin, ta musique?
La musique, c'est venu plus tard, quand j'avais 14-15 ans. J'avais une sœur un peu plus jeune qui écoutait la radio, elle, en faisant ses devoirs. Elle écoutait Salut les copains sur Europe numéro 1. Et moi, ça ne m'attirait pas, mais je l'entendais. Et puis, c'est elle qui aimait ça. Et puis, peu à peu, je lui ai posé des questions. Et ça, tiens, finalement, là, il y a ce morceau ou ce groupe qui me plaît un peu, comme ça, en fond sonore. Et puis, peu à peu, je l'ai de plus en plus entendu. Et puis, il y a un jour où il y a un morceau, je ne sais pas lequel, hein, mais il y en a un dont je me rappelle, de Nancy Sinatra, « These boots are made for walking ». Et là, tout d'un coup, un jour, j'ai percuté là-dessus, je ne sais pas, je crois que c'est 65, ou par là. Et puis, peu à peu, je mémorisais tout ça et ça me marquait, je me renseignais. Et puis un jour, j'ai eu envie d'acheter des disques. J'ai commencé à acheter des 45 tours. J'ai poussé mes parents à acheter un électrophone, parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait que la radio chez nous, des transistors, ou avant des postes qu'on branchait, mais malgré tout, j'ai plein de souvenirs de quand j'étais enfant, de ce poste, et je me rappelle, Jacques Brel. Il y avait des morceaux qui me plaisaient de Jacques Brel. Le premier morceau de Jacques Brel qui m'est plu, c'était La valse à mille temps. Voilà, je me rappelle de Gilbert Bécaud. J'aimais bien Gilbert Bécaud. J'aimais bien des trucs comme ça. Ça, c'était dans les années 50. Et puis un jour, il y a mon cousin Germain qui était tailleur, qui était espagnol, donc enfin catalan. On est catalan, nous, dans la famille, plus qu'espagnol, qui est venu s'installer à Bordeaux. On l'a aidé à trouver du travail, on l'a aidé à trouver un studio. J'avais sympathisé avec lui, il était beaucoup plus âgé que moi. Donc lui, il sortait, il allait dans les booms, et puis il parlait très bien français, parce qu'en fait, on était d'une région frontalière, et donc on parlait aussi le français dans ma famille espagnole.
Tu veux dire qu'à la base, dans la famille, vous parliez en espagnol la plupart du temps ?
Oui, il parlait plein de langues. En fait, le premier truc qu'il parlait, c'était un dialecte qui s'appelait l'aranès. Il parlait catalan, bien sûr. Il parlait aussi espagnol et il parlait aussi français. Donc, ce cousin a eu une certaine importance pour moi parce qu'il traînait avec des soldats de l'armée américaine qui avaient à ce moment-là. Et c'est les premiers blacks que j'ai fréquentés parce que, comme lui, il parlait espagnol et qu'il avait un peu la nostalgie du pays, il a rencontré des soldats américains d'origine portoricaine et d'origine cubaine qui parlaient espagnol et qui, mon cousin avait un électrophone, donc ça me séduisait. Et puis, il faisait un peu du troc avec mon père, parce que mon père a fait la guerre dans l'armée anglaise, donc il aimait le tabac de Virginie. Et eux, ils avaient du tabac. Lui, il fumait la pipe, mon père. Donc, ils avaient du tabac américain qu'ils lui revendaient pour se faire de l'argent de poche, qui ne coûtait pas cher, de Virginie, de je ne sais où, je ne me rappelle plus le nom. Et aussi, ces gars-là avaient des disques de Nat King Cole, parce que Nat King Cole a aussi fait des disques en espagnol, ils avaient des disques de Sam Cooke, ils étaient blacks, métis, mélangés. Ils avaient des disques de Harry Belafonte, ils avaient des disques de Trini Lopez, je ne sais quoi d'autre, je ne me rappelle plus.
Donc là, les bonhommes, ils t'amènent une bibliothèque
Oui,
riche.
Bon, après, moi, j'étais pas un gros fan de musique, mais j'avais une oreille développée parce que je devais avoir 9 ans, 10 ans, et je m'en rappelle encore. Donc, c'est quelque part, inconsciemment, ça m'avait marqué. Voilà.
Et du coup, Bordeaux... Comment t'arrives à Bordeaux ? C'est quoi l'histoire ?
Mais j'étais à Bordeaux.
Ah, t'étais déjà à Bordeaux.
Moi, je suis arrivé à Bordeaux, je sais pas, 6 ans par là, un truc comme ça. Après, tous les week-ends, on allait en Dordogne. Les vacances scolaires de Pâques, tout ça, on allait en Dordogne. Et pendant les grandes vacances, il y avait obligatoirement un mois en Dordogne, obligatoirement un mois... au Val-d'Aran.
Alors, je sais pas pourquoi, mais peut-être que je me trompe, mais je t'imagine pas trop au premier rang à l'école.
À l'école, je n'étais pas au premier rang. J'étais très rêveur et très distrait. Et je rêvassais à l'école parce que ça ne me passionnait pas, moi. Ce qui me passionnait, c'était la récréation. Et puis, il y avait des années, si le professeur avait... si j'aimais bien l'instituteur, eh bien, j'étais bon. Si je ne l'aimais pas, ben, je n'étais pas bon. Et en cours moyen 2, j'étais dans les trois premiers.
Quand même.
Voilà. C'est juste cette année-là où c'est arrivé. Et après, en sixième, j'étais un cancre. En cinquième, j'avais des hauts et des bas. En troisième, c'était la quatrième, troisième. J'étais dans le milieu, là. Et j'ai redoublé ma troisième. Et quand j'ai redoublé ma troisième, j'ai été meilleur. Je me suis intéressé aux mathématiques, chose qui me plaisait pas jusqu'à présent, et donc j'ai fait une deuxième C. Mais comme j'étais pas assez bon en maths, il suffisait que le prof me plaise pas pour que je sois pas bon. On m'a reversé en première D.
Biologie.
Voilà, biologie, géologie, et j'ai passé un bac D. Donc. C'était le bac sciences ex. J'ai fait le premier bac avec des lettres en 68, où j'ai eu mon bac D.
68, il y en avait beaucoup qui avaient leur bac, non?
Eh bien, moi, de toute façon, dans ma classe, on l'a tous eu. C'était un bon lycée. C'était le lycée municipal de garçons de la ville de Bordeaux.
C'était où, ça?
C'était rue du Commandant Arnoul. C'était un lycée de pauvres. Parce que les lycées de riches, ils faisaient latin et grec. Et moi, franchement, le latin, c'était la messe. Donc, étant fils de républicain, la messe n'était pas une chose bien vue dans ma famille, ni les curés, c'était pas bien vu dans ma famille. Et surtout en Espagne, où si tu voulais avoir le droit de manger du poisson, la viande le vendredi, il suffisait de donner de l'argent au curé. Et alors, tu avais le droit de manger de la viande le vendredi. Donc déjà, on trouvait ça louche que les privilèges soient négociés financièrement.
Ouais. Alors là, donc, tu te retrouves avec un bac D dans ta poche. Tu penses plus trop aux bergers, aux bûcherons?
Ben non, après, quand tu vieillis, tu changes, mais après, si tu veux, à cette époque-là, le bac avait de l'importance. Mais bon, après, moi, les études, ça ne me branchait pas du tout. Donc, j'étais à la fac, mais ouais. Ça ne me plaisait pas. Et j'ai arrêté au bout de 3 mois. Je me suis engagé dans l'armée française.
Tu as été un militaire?
J'ai été un militaire, j'ai signé pour 5 ans direct parce que c'était le plus gros contrat possible et imaginable. Donc, moi, je suis excessif. Donc, j'ai fait le plus gros.
Et t'es parti où?
Oh, je suis parti à Agen.
C'est loin, Agen.
Pour moi, c'était loin.
Ah ouais?
Ça me sortait du milieu familial, voilà, j'étais à Agen, j'étais dans le Tarn-et-Garonne. Et après, j'ai été à Pontoise, j'ai été à Verdun, à Strasbourg, à Metz. Après, il y avait beaucoup de garnisons qui étaient dans l'est de la France, donc voilà, j'étais dans l'est de la France. Mais j'étais un gros fanatique de musique et j'achetais tout mon argent passé dans les disques.
Et alors après, après l'armée,
Mais après l'armée.
Pourquoi tu arrêtes l'armée? Parce que 5 ans, basta.
Ah, ben après. J'étais militaire et antimilitariste. Parce que. Aussi,
original.
Il y en avait quelques-uns. Parce que c'était une époque. Bon, je me suis engagé le 1er avril 1969. C'était une époque aussi où il y avait des idées qui circulaient. Voilà, il y avait eu mai 68, mais ça a duré longtemps, hein, en fait, mai 68, plus qu'on croit, hein, parce qu'en 69, il y avait plein de manifestations à Paris, en 70, en 71, c'était agité, hein, à l'époque. Et on était quelques militaires, donc antimilitaristes, qui écoutions du rock, avec qui avaient des messages antimilitaristes, parce qu'il y avait la musique anglo-saxonne, il y avait le Vietnam, et la musique, c'est un reflet de ce qui passe dans nos sociétés, quoi, en fait. Ça a un côté un peu rebelle.
Alors justement, quand tu es en 68, antimilitariste, engagé pour 5 ans, est-ce que ça veut dire que pendant tes 5 ans, t'as fait un peu de trou, quoi, enfin, comme on dit
Ah, j'ai fait un peu de trou à l'armée.
Parce que
tu es
un peu en tôle.
Oui, j'étais oui. Oui, j'étais... J'ai été puni, assez rapidement parce que j'ai fait plein de refus d'obéissance.
Voilà, merci, le refus d'obéissance.
Et donc, on m'a puni. J'ai fait des corvées.
Les chiottes.
Ouais. Oui, mais après, quand tu es à l'armée, quand tu es dans une école militaire, les corvées de chiottes, les revues d'armes, c'est... C'est courant, hein. C'est voilà, on faisait du sport, on faisait du tir, on faisait le parcours du combattant, on faisait des raids, on s'entraînait, on allait tirer. Voilà, d'abord avec des balles à blanc, après tir au réel, voilà quoi, enfin militaire. Hein.
Donc là, tu finis ton contrat.
Donc là, je finis mon contrat, je lis un peu tous les bouquins de la Beat Generation, dont
Kerouac.
Jacques Kerouac, La Route.
Yes.
Et alors, quand je finis mon armée, eh bien, je fais comme Jacques Kerouac, je pars sur la route pendant un an et je vadrouille dans l'Europe du Sud jusqu'en Turquie.
Europe du Sud ?
Ben, l'Italie, la Grèce, la Yougoslavie, jusqu'à la portion européenne de la Turquie, Istanbul.
Et là, tu fais une récolte ou quoi ?
Une récolte de quoi ?
De vinyle.
Ah non, non, non. Là, quand j'étais sur la route, le vinyle...
C'était la route.
Le vinyle, c'était l'aventure, quoi. Il n'y avait plus de vinyle. J'avais mes vinyles, ils étaient chez moi, quoi. Et à un moment donné, je suis repassé chez moi, enfin chez mes parents. Donc ça, c'était début 75. Et alors là, mon père, il me dit, mais bon, faudrait quand même que tu penses à ton avenir et à avoir un métier, à faire quelque chose... plutôt que d'aller vadrouiller à droite, à gauche.
Et pour l'époque, j'ai l'impression à tes mots d'entendre que le pater, il était plutôt tolérant, quoi. Patient, je sais pas.
Ben après, si tu veux, à cette époque-là, nos parents, toute leur jeunesse, pendant leur jeunesse, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, eux, ils n'ont pas eu de jeunesse. Et ils avaient des parents sévères qui leur avaient bien serré la vis. Et donc, eux, ils n'imaginaient pas les choses comme ça pour nous, en fait. Donc ils étaient plutôt libéraux et tolérants parce que mon père, il avait fait la guerre d'Espagne. Après, il était arrivé en France comme ça, avec l'armée en déroute. Il était devenu bûcheron. Il coupait du bois brûlé parce que personne d'autre voulait le faire, quoi. C'était la main-d'œuvre de l'époque. C'était les républicains espagnols qui faisaient les sales boulots qu'il y avait à faire parce qu'ils avaient besoin de vivre. Et puis après, mon père s'est marié avec une Française, donc ma mère. Et il a cultivé la terre, quoi, au début. Et après, il a eu des problèmes de santé, donc il a été obligé de changer de métier. Et il est devenu représentant de commerce, parce que il pouvait plus exercer le métier de cultivateur, parce qu'il avait eu un ulcère très grave à l'estomac, et donc il pouvait plus faire de boulot dur.
Et alors quand il te dit, bon, fiston, mon fils,
eh ben,
tu lui réponds quoi, toi? On va voir.
Il dit, moi j'aimerais bien continuer à voyager. Et il me dit, oui, mais c'est possible. Il m'embobine, il me dit, c'est possible, tu peux faire avoir un travail. Et puis après, avec l'argent que tu as gagné, tu peux partir en voyage. Et donc, je me fais avoir et je deviens aussi représentant de commerce. Et la première année après, je pars en voyage, mais je continue représentant de commerce et après, je ne pars plus en voyage.
Alors, représentant de commerce, tu veux dire que tu es sur la route tout le temps?
Hein?
Tu es sédentaire ou tu es représentant?
Non, j'allais.
J'avais la bagnole.
En tournée, j'avais une voiture. J'avais des collections à vendre, j'allais dans les magasins de sapes et je leur vendais des sapes.
T'avais un gros secteur ?
J'ai eu l'Aquitaine, j'ai eu le Grand Sud-Ouest, donc...
T'as roulé ?
J'ai roulé.
Donc j'imagine que malgré, enfin, pendant tout ça quand même, l'oreille continue à se développer ?
Eh bien, de toute façon, je gagne de l'argent. Et avec l'argent, j'achète des disques. Parce que ça m'avait pas quitté. Je voulais travailler là-dedans. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas toutes ces écoles qui existent maintenant. On ne savait pas comment faire. On ne connaissait pas la nature réelle des métiers qu'il y avait dans la musique. Bon, moi, je n'étais pas musicien, j'ai toujours chanté très mal. Donc, une carrière artistique, vraiment, n'était pas envisageable. Donc, c'était forcément une carrière proche des artistes qui pouvait me séduire. Et après, il y avait un jeune homme qui passait de la musique à la radio, qui s'appelait Pierre Lattès. Et ça me séduisait qu'il y ait des mecs comme ça qui choisissent de la musique pour les autres. Et je me suis dit, tiens, c'est un truc que je pourrais faire. Passer de la musique pour les autres, mais après, c'était assez réduit. Et à la radio, il n'y avait pas des milliers de personnes qui faisaient ça. Et après, moi, j'étais très sauvage et très timide. Je ne me voyais pas aller dire bonjour, je voudrais être disque jockey dans votre radio. Donc après, ce qui était envisageable pour moi, c'était de passer de la musique ou dans des bars ou dans des boîtes de nuit pour faire danser des gens, parce que je le faisais déjà dans le milieu de mes copains, parce que à cette époque-là, le fait d'avoir des disques, le fait d'avoir une chaîne avec un certain volume sonore, ça faisait que tu amenais ta chaîne et donc tu passais les disques.
Donc, assez timide pour, à l'époque, pour pas encore aller voir la radio, mais pas timide du tout pour aller là où ça se passe, là où les gens y dansent, quoi.
Oui, après c'était des surprises parties privées, hein, d'amis qu'on faisait, et puis j'allais au concert, et puis je rencontrais des musiciens, des groupes, peu à peu, des organisateurs, des mecs de magasins de disques. Ouais. Après, au bout d'un moment, tu t'y connais, t'as des goûts pointus, donc t'es remarqué un peu par les autres, quoi. Et puis, en 81, il y a la radio libre qui arrive. Donc, ceux qui font des émissions de radio, c'est les plus grandes gueules. Et puis, des fois, les grandes gueules n'ont pas beaucoup de disques. Et alors, au bout d'un moment, quand il se dit « Ouais, mais passer mes disques, c'est bon, j'en ai 50, je les ai passés, il me faut de la nouveauté, ils n'avaient pas d'argent. » Donc, voilà comment j'arrive dans la radio. Moi, j'étais collectionneur, j'avais déjà quelques milliers de disques, donc je participe à des émissions de radio parce que j'ai des disques.
D'accord. Et c'est là que tu tombes dans le bain, c'est là que ça bascule ?
Et là, je commence à trouver des solutions pour éventuellement faire un métier avec ça.
Ça commence à s'organiser, quoi.
Ouais, ça commence à s'organiser. J'avais un copain qui traînait dans des associations qui organisaient des concerts. Et là, il me dit « Ah, mais ouais, mais Francis, avec tous tes disques, avec toutes tes connaissances, on pourrait organiser des concerts. » Moi, j'en avais un peu rien à foutre, à vrai dire, d'organiser des concerts. Mais bon, je me suis dit « Tiens, je vais voir ce que c'est, ça, organiser des concerts. » Et on commence à organiser des concerts au début des années 80, au début pas beaucoup.
Quoi, les années 80, c'est quoi ? C'est le Luxor ? C'est quoi ? C'est...
Non, c'était avant. Mais moi, après, je fuyais en même temps un peu ça, quoi. Tu vois, moi, par exemple, au Festival de Mont-de-Marsan, au deuxième, en 77... C'était plein de copains à moi qui avaient fait Rod, les petits boulots qu'il y avait à faire, porter les amplis, installer les amplis sur scène, aller chercher les musiciens à l'aéroport, des choses comme ça, hein, parce que c'était fait... par des gens passionnés, et il y avait plein de bénévoles qui avaient été recrutés pour, parce que c'était fait sans moyens, qui avaient été recrutés comme ça, par connaissance, parce qu'ils étaient passionnés par ça. Et moi, j'ai refusé de faire le rodi parce que ça ne m'excitait pas. Moi, j'avais préféré payer ma place pour voir les groupes. Parce que c'était les groupes qui me plaisaient et j'avais pas envie d'être rodi et j'avais pas envie de voir. Je savais pas ce que c'était de voir un concert de la scène.
Alors juste
être dans le public.